à voix nue par Toufik Hakem. Cette semaine, je reçois
Michel Simon, critique et historien du cinéma.
Cinquième et dernier épisode, le passeur passionné, car en plus d'être critique de cinéma, directeur de la revue Positif, vous êtes aussi un des animateurs du Masque et la Plume. Vous avez produit sur France Culture de nombreuses années votre émission Projection privée et vous enseignez à l'université. Alors, comment enseigner une passion? Parce que pour vous, le cinéma, c'est une passion.
Oui, mais pour moi, tout est lié. C'est-à-dire, ce qui relie toutes mes activités, c'est la transmission. C'est-à-dire de faire partager ce que j'aime, en particulier le cinéma. Ça aurait pu être d'autres choses, mais en tout cas, c'est tombé sur le cinéma qui a beaucoup occupé mon temps.
Votre illustre confrère Serge Janet parlait de passeurs, être des passeurs.
Voilà. Et oui, c'est-à-dire aussi bien un cours à l'université, où je ne suis plus, évidemment, je suis à la retraite depuis pas mal d'années, un cours à l'université, une émission de radio comme Le Masque et la Plume, une revue comme Positif, les interviews, les livres, etc. C'est communiquer sa passion, parce que je pense que sans passion et sans raison, s'il n'y a ni raison ni passion, c'est rien, mais s'il y a de la passion sans raison, c'est dangereux, et s'il y a de la raison sans passion, c'est ennuyeux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'art que j'ai connu et que je continue à défendre. C'est l'art que les festivals défendent, c'est-à-dire Cannes, Venise, Berlin, par rapport à une massification de la production et une production de, surtout depuis pas mal d'années, quelques années, une production de moins en moins courageuse, de moins en moins audacieuse. Quand on voit les chiffres d'entrée publique de certaines comédies comme les Ch'tis ou les films comme ça, qui font 4 millions d'entrées, et quand on voit les grands succès des années 50, les films de René Clair, les films de Clouzot, etc., qui faisaient des millions d'entrées, on se dit que on va tout de même vers le bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les films d'auteurs, qui peuvent être d'ailleurs des films populaires, parce que je suis pas du tout contre le cinéma populaire. C'est ce qui me plaît à Hollywood, c'est que justement, le cinéma américain a su produire des films très beaux, qui sont aimés. C'est ça qui est très beau. Quand on voit un film comme 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a une grande jouissance intellectuelle à se dire que ce film a été admiré par des philosophes, par des agriculteurs, par des mineurs de fonds, par des adolescents, par des vieillards, etc. C'est-à-dire que il y a une sorte d'entente de toutes les classes sociales, de tous les niveaux d'éducation, de tous les âges, pour admirer un film aussi expérimental et aussi grandiose que 2001, l'Odyssée de l'espace. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus réconfortant dans le cinéma. C'est-à-dire, c'est un art qui a réussi à devenir ce qu'était, disons, le roman au XIXe siècle, où les gens lisaient Zola, quel que soit leur âge.
Certaines personnes, en vous entendant tenir ce discours, Michel Simon, vont dire au mieux que vous êtes passéiste, au pire que vous êtes réactionnaire.
Je ne suis pas du tout réactionnaire, au contraire, je suis très démocrate.
Vous dites qu'avant c'était mieux, globalement, si j'ai bien compris.
Au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie. Il n'y a pas de raison d'être taxé de réactionnaire si on regrette que la production manque d'ambition, que le public reste chez lui plutôt que d'aller au cinéma, ça n'a rien de réactionnaire. Je vois pas ce que ça a à voir avec le...
Ou passéiste, ou nostalgique.
Mais pas pas nostalgique, puisque je me bats. Les nostalgiques se battent pas.
Les plateformes, pour vous, c'est une abomination ou c'est une autre manière de voir des films?
Les plateformes, pour moi, c'est un complément. Mais je pense que voir un film sur un grand écran, c'est pas la même chose que de le voir sur un petit écran ou encore sur un portable.
Sauf que ces plateformes produisent maintenant du cinéma. Ils produisent même des grands cinéastes, comme Scorsese par exemple, comme Jane Campion, que vous aimez, que vous appréciez.
Non, mais moi je n'ai absolument rien contre les plateformes quand elles produisent des grands cinéastes et qu'elles leur laissent la liberté. Par exemple, j'adore un cinéaste anglais d'origine jamaïcaine, en tout cas des Antilles, qui s'appelle Steve McQueen. Il a fait un film de 5 heures en 5 épisodes sur un quartier de Londres, absolument formidable, produite par une plateforme, qui est passée en France d'ailleurs de façon un peu clandestine. C'est très bien, Jane Campion... a fait un western magnifique pour Netflix. Mais vous savez que récemment, la direction de Netflix a dit qu'ils vont investir de beaucoup moins dans les films ambitieux, les films de cinéphilie, parce que ça marche pas. Parce que, par exemple, les films de Scorsese ont fait de très mauvais taux d'audience, le Jane Campion non plus. Donc, c'est peut-être qu'ils ont fait ces films-là pour se donner une sorte de légitimité et qu'au bout d'un certain temps, ils vont abandonner les films ambitieux.
Est-ce que le métier de critique est en voie de disparition pour vous, Michel Simon, depuis qu'il s'est démocratisé, d'ailleurs, depuis que les spectateurs peuvent, à travers le net, donner leur avis tout de suite?
Bon, alors je vais passer encore pour réactionnaire, je pense que...
Avec des guillemets à réactionnaire, on est d'accord.
Je pense que simplement, le public, il donne son avis par sa fréquentation des salles. On sait, par exemple, que le public a adoré les ch'tis ou des films de ce genre, puisqu'il y a 4 millions de gens qui sont allés le voir. Donc il donne déjà son opinion. Mais je pense que l'opinion du critique, qui n'est pas meilleure ou plus juste que le public, parfois le public a raison contre la critique. Le public a aimé des grands films pendant que la critique française démolissait beaucoup de films américains. Le public allait voir les comédies musicales de Minelli ou de Stanley Donen, qui étaient méprisées dans Le Figaro ou dans L'Humanité. Pour des raisons opposées d'ailleurs, mais Le Figaro, pour des raisons de goût, trouvait vulgaire le cinéma américain, certains films américains. L'Humanité, pour des raisons idéologiques, trouvait condamnables les films américains. Donc parfois le public a eu justement raison, il aimait John Ford sans demander l'avis de la critique. Et par contre, parfois aussi, le public a besoin d'être initié par la critique. Moi-même, c'est par la critique de Truffaut, la critique de Benayoun, quand j'avais 15 ans, que j'ai appris à aimer Buñuel, que j'ai appris à aimer Antonioni, que j'ai appris à aimer Bresson, etc., où je ne serais pas allé spontanément voir ces films. Donc je trouve ça très, très regrettable, effectivement, qu'il y ait moins de place pour la critique, qu'il y ait moins de critiques cultivées, moins de critiques qui connaissent vraiment bien le cinéma, parce que c'est une activité extrêmement nécessaire et beaucoup de metteurs en scène aussi reconnaissent qu'ils ont appris des choses de la critique sur leur propre métier.
Mais aujourd'hui, entre les critiques ou les critiques prescripteurs, puisqu'il y a eu un âge d'or de la critique, on en a parlé, Michel Simon, et les influenceurs, aujourd'hui, le Festival de Cannes, par exemple, pour parler d'un rendez-vous aussi important que celui-ci, le Festival de Cannes déroule son tapis rouge aussi bien à TikTok qu'aux critiques de cinéma.
Oui, mais moi, ça ne me gêne pas vraiment, parce que je pense que Cannes, Berlin, Venise sont des contrepoids au marché. C'est-à-dire que globalement, les sélectionneurs de Cannes, de Venise et de Berlin... globalement, avec évidemment de temps en temps, ils invitent Top Gun pour faire une salle populaire, etc. Mais grosso modo, leur combat est le même que celui des revues spécialisées. Donc je pense que les festivals jouent un rôle très important aujourd'hui. C'est le dernier rempart avec les magazines spécialisés, les revues spécialisées, avec quelques quotidiens, quelques hebdomadaires, le dernier rempart de défense d'un cinéma d'auteur.
Et pour les influenceurs, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah écoutez, de peur d'être influencé, je ne fréquente pas les influenceurs.
Est-ce qu'il y a une méthode, Michel Simon ? C'est quoi votre méthode, s'il fallait la décrire, en tant que critique ?
J'ai pas de vraie méthode. J'essaye, quand j'écris, de voir au moins deux fois le film, parce que j'admire mes confrères qui sont dans l'obscurité d'une première vision, et qui sont penchés vers leur carnet de notes avec un petit stylo lumineux pour prendre des notes, parce qu'on ne peut pas à la fois prendre des notes et regarder l'écran. Donc en général, je ne prends jamais de notes quand je vois un film pour la première fois. Si c'est pour en parler au masque et la plume, j'ai pas besoin de prendre des tas de notes. Je peux. Mais si c'est pour écrire un grand article ou faire un entretien approfondi, je vais revoir le film une deuxième fois, et cette fois-ci, là, je prends des notes.
Est-ce que vous revoyez souvent les films que vous aimez ? Par exemple, s'il fallait donner quelques exemples, est-ce qu'il y a un film que vous pouvez revoir autant de fois que possible ?
Les grands metteurs en scène sur lesquels j'ai écrit, par exemple, c'est évident que ça m'arrive de revoir un film de Billy Wilder, de revoir un film de Kubrick, de revoir un film de Kazan, de revoir un film de Claude Sautet.
Mais voilà. À quelle fréquence ? Je sais pas, 5 ?
Tous les 4-5 ans.
Ça vous renvoie aussi à l'époque où vous l'avez vu la première fois. Ça vient avec aussi ses souvenirs, Michel Simon ?
Bien sûr, ça revient avec ses souvenirs, avec pourquoi je suis allé le voir, etc.
Vous êtes allé à Venise, par exemple, avant le cinéma, avant
le festival ? J'étais allé à Venise avant le cinéma, mais c'est le premier festival auquel j'ai assisté. Ouais. Et j'y étais dans l'illégalité, parce que j'avais pas terminé mon service militaire, mais on n'a pas le droit de partir de France tant qu'on est dans la durée normale du service militaire. Or, il m'en restait 3 semaines à faire pour finir mon service militaire. Et Robert Benayoun, qui écrivait dans l'Observateur, devait partir à Hollywood et il m'a demandé de le remplacer. Et j'ai pas pu résister, donc j'ai pris l'avion, je suis allé à Venise et j'ai écrit dans l'Observateur, en situation totalement illégale, un danger pour la nation, parce que je ne devais pas travailler à l'étranger, partir à l'étranger. Donc j'ai été au Festival de Venise pour l'Observateur pendant mon service militaire.
Et tout s'est bien passé ?
Tout s'est bien passé. On peut encore m'arrêter, peut-être.
Non, il y a prescription, Michel Simon. Pensez bien. Cette série d'Avenue est enregistrée chez vous, à Paris, dans votre appartement. Elle est entourée de livres. Il y a beaucoup de beaux livres, d'ailleurs. La peinture a été très présente dans votre vie aussi ?
Oui, les arts en général, ouais. La lecture incontestablement, la peinture beaucoup grâce à l'Italie. Quand j'étais au lycée Condorcet, on avait des voyages organisés pour les vacances de Pâques et on allait en groupe. J'ai fait 2 fois la visite de l'Italie du Nord et l'Italie du Sud et j'ai découvert toute la peinture italienne quand j'avais 14-15 ans. Et ça a été très marquant pour moi. De même que la musique, je l'ai découverte quand j'apprenais l'allemand à Salzbourg, à côté de Salzbourg.
La musique classique. Hein.
La musique classique. Et j'écoutais Furtwängler, j'écoutais Mozart, j'écoutais Beethoven, etc. Et ça, j'avais également 14-15 ans. Et j'étais initié à la musique dans cette famille autrichienne où j'apprenais l'allemand.
Est-ce que vous écoutez de la musique pop, Michel Simon ?
La musique ?
Pop, le rock ?
Pas trop. Le jazz, oui.
Oui.
Le jazz, oui, mais je déteste pas la musique rock, mais je peux pas dire que ça a été formateur pour moi.
La variété française ?
Oui, bien sûr. Et aussi bien Gainsbourg que Edith Piaf, que très varié.
Gainsbourg, vous l'avez rencontré d'ailleurs ?
J'ai rencontré Gainsbourg, j'ai fait 2 grands entretiens avec lui, magnifiques, de 5 heures, exceptionnels, dans sa maison de la rue de Verneuil.
Autour du cinéma ?
Autour du cinéma, parce qu'il était très touché qu'on s'intéresse, que Positif s'intéresse à ses films, parce qu'il en a fait 5, il était très cinéphile. Et j'ai publié d'ailleurs ses entretiens chez Gallimard, dans Une vie de cinéma, et c'était des souvenirs mémorables. On a passé, avec 2 amis, on a passé des heures formidables. Et finalement, à la fin, où il nous a emmené déjeuner, on a continué tout l'après-midi. Et ensuite, on est allé chez Losfeld, qui était en face, l'éditeur de Positif. Il a acheté des livres qu'il nous a offerts.
Donc, cette série est enregistrée chez vous, Michel Simon. Nous sommes en 2023. Il y a 60 ans exactement, paraissait donc votre premier article dans Positif. C'était en 1963, ça, vous nous l'avez dit. En 60 ans, est-ce que le cinéma a changé votre vie ?
Oui, parce que le cinéma m'a permis aussi de rester toujours en contact avec l'actualité. C'est l'art du XXe siècle, dans la mesure où, si on voit tous les films du XXe siècle, on a une grande connaissance du goulag, de la Shoah, de la guerre du Pacifique, des chômages, des grèves, du Front populaire, etc. C'est-à-dire que la peinture a cessé d'être figurative pendant très longtemps, ça revient aujourd'hui. La littérature, évidemment, reste aussi branchée sur ce qui se passe, pas le nouveau roman, mais la littérature en général. Et donc le cinéma fait cette synthèse des arts qui est à la fois qui m'a passionné parce que je m'intéressais aux autres arts et aussi parce qu'il restait constamment en contact avec les journaux. Moi, je suis un grand lecteur de journaux, comme disait Goethe. Le journal, c'est ma prière du matin. Et le journal, c'est la prière du matin. Quand on lit le journal, c'est comme au XVIIe siècle quand on lisait l'Évangile. Mmh. Quoique les journaux ne sont pas toujours l'Évangile.
Tiens, et à propos de spiritualité, vous en êtes où, Michel Simon ?
Ah ben, je ne suis pas spiritualiste. Mais je peux être sensible, néanmoins, au sacré. C'est pour ça que je me rapproche aussi du surréalisme. Parce que le surréalisme était très sensible au sacré, au mystère, mais sans être pour autant croyant.
Vous n'avez pas parlé, par exemple, de votre famille durant cette série d'entretiens? C'est-à-dire les amours, la famille, les enfants.
Ben, j'ai eu deux femmes dont j'étais très amoureux. J'ai un fils dont je suis très fier, qui s'est devenu un spécialiste de la bande dessinée, mais qui aujourd'hui travaille au service cinématographique des armées, dont il est un des responsables, et qui écrit très bien aussi, et est très apprécié dans son milieu, et qui connaît évidemment très bien le cinéma, mais il a choisi un autre champ d'activité.
C'est-à-dire que le cinéma était présent, y compris dans votre sphère intime.
Absolument. Mais je ne vois pas comment on pourrait vivre avec moi en détestant le cinéma.
Aujourd'hui, comment vous imaginez le futur du cinéma? Je sais que c'est la question qu'on préfère éviter, mais vous, qui êtes un grand critique, on vous a même surnommé le pape de la critique cinématographique. Comment vous le prenez d'ailleurs, Michel Simon?
Étant donné que je ne crois pas au pape, ça veut dire que je ne crois plus en moi-même. Non, moi je maintiens toujours. Chaque année, j'ai été bouleversé par des films de nouveaux metteurs en scène. Donc je ne suis pas de ces gens qui disent on ne fait plus des films comme ça aujourd'hui. Ça me paraît absurde. On fait moins de grands films qu'avant. C'est vrai que les années 60 et 70 ont été des années exceptionnelles. On retrouvera sans doute jamais cette époque-là, où il y avait encore les très grands metteurs en scène et les nouveaux qui arrivaient. On en a parlé. Mais je crois qu'il y a suffisamment de choses. Par exemple, Godland l'année dernière, un film islandais, une merveille absolue. Il y a eu un film ukrainien, magnifique, également. Il y a des films venant de pays très peu productifs, mais qui donnent des chefs-d'œuvre. Donc moi, je trouve que la diversification du cinéma est ce qu'il y a de plus éblouissant aujourd'hui. Il y a des chefs-d'œuvre qui viennent de partout, qui viennent de Taïwan, qui viennent du Sri Lanka. C'est la petite planète cinématographique est devenue une grande planète.
Vous aimez tous les genres cinématographiques, Michel Simon, c'est-à-dire le film d'animation, la comédie, les films de genre
Oui, je suis pas très, très attiré par le film gore. J'ai des amis qui sont très fous des films gore. Je suis pas très intéressé par les films gore, mais en dehors des films gore, et le porno, qui m'a pas tellement sollicité, je dois dire que tous les grands genres cinématographiques m'intéresse. Ce qui m'intéresse surtout, c'est leur qualité.
Le film d'animation?
L'animation, bien sûr. J'allais tout le temps au Festival d'Annecy. J'ai interviewé des grands animateurs comme Miyazaki. J'ai fait Svankmajer, le grand cinéaste tchèque, Yuri Nordstein, le russe. Bon, il y a des génies de l'animation et de cinéma d'animation et d'une liberté totale. Et en plus, j'ai eu l'occasion de fréquenter Robert Benayoun, qui était un des plus grands critiques français, et qui était un grand spécialiste de la peinture aussi, surréaliste, et qui s'intéressait passionnément à l'animation.
Mais alors, pourquoi Benayoun? Pourquoi Truffaut? Pourquoi ces deux noms reviennent souvent quand vous parlez des critiques de cinéma, Michel Simon? Qu'est-ce qu'ils ont par rapport aux autres que vous auriez pu citer? Vous n'avez pas cité une seule fois Jean-Louis Borry, j'ai noté, très peu, Serge Danet, et d'autres critiques, mais pourquoi ces deux-là précisément? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier?
Roger Tailleur,
oui, absolument.
André Bazin, mais parce que c'est des gens qui m'ont marqué, parce qu'ils sont à l'origine de ma vocation. C'est des gens qui m'ont le plus impressionné, parce que c'est avec eux que j'ai découvert ce qu'était la critique de cinéma, ce qu'on pouvait faire avec une plume. Et que les gens qui... Jean-Louis Borry, par exemple, je le lisais toutes les semaines, et j'aimais bien. J'aimais beaucoup Borry au Masque et la Plume. Je trouve qu'il avait le côté tout feu, tout flamme. Il était passionné. Je peux pas dire que les analyses de Borry en tant que telles étaient l'équivalent de celles de Truffaut ou de Benayoun ou de Tailleur ou de Romer, qui étaient vraiment des critiques pour moi qui parlaient de la forme. Borry était un grand littéraire qui parlait très bien des histoires, des personnages, etc., et qui avait un très bon goût, et qui se battait avec beaucoup de ferveur pour le cinéma. Mais si je cite moins Borry que Truffaut ou Benayoun, c'est parce que, concrètement, il m'a moins marqué que les autres.
Aujourd'hui, vous arrive-t-il d'être étonné par une critique de cinéma? Est-ce qu'il y a des jeunes critiques de cinéma qui vous plaisent.
Absolument, et d'ailleurs j'ai le bonheur de travailler à Positif, où on lit les textes qu'on nous envoie, où on remarque dans un journal la qualité de telle autre critique, ou soit des critiques totalement innocents qui n'ont jamais publié, soit des critiques qui écrivent ailleurs, et ensuite on les recrute. Et dans cette revue, il y a des tas de gens, mais je ne veux pas faire de jaloux, je ne veux pas citer, mais il y a beaucoup de noms nouveaux depuis 10 ans qui sont des gens vraiment de très haute qualité et que je lis avec énormément de passion et qui m'apportent beaucoup.
Est-ce que vous reliez la critique cinéma à la grande tradition française de la critique des arts? Est-ce qu'il faut remonter jusqu'à Baudelaire pour expliquer pourquoi ça a une place très importante en France?
Absolument. Je pense que la critique cinématographique appartient à cette grande famille de la critique qui a fait de la France un pays privilégié pour les critiques littéraires, pour les critiques de peinture et pour les critiques de cinéma. Et d'ailleurs, avec Jacques Zimmer, j'ai fait il y a une vingtaine d'années un livre qui s'appelle « La critique de cinéma en France » qui propose une anthologie des meilleurs textes critiques, un dictionnaire des critiques où on évalue et on dit beaucoup de bien d'un nombre considérable de critiques de cinéma, au moins plus d'une centaine de critiques.
Est-ce qu'on est marqué par sa culture, Michel Simon, quand on fait une critique cinéma? Autrement dit, est-ce que vous qui voyagez beaucoup, est-ce qu'à chaque fois que vous rencontrez des critiques venant d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Afrique, vous comprenez ce qu'ils veulent dire? Vous êtes d'accord avec leur façon de voir un film, de vivre le moment de ce film?
Écoutez, d'abord, je fréquente beaucoup les festivals parce que c'est aussi un très grand lieu de rencontre. Et j'ai remarqué que souvent les Français restent entre eux, les Italiens restent entre eux. Et je fréquente beaucoup les critiques étrangers. Je connais des Croates, je connais des Brésiliens, je connais des Suédois, je connais des Allemands, etc. Et c'est toujours passionnant de discuter avec eux, justement. Je pense qu'il y a une grande famille de la critique. Et d'ailleurs, une revue comme Positif, on parle beaucoup plus d'elle à l'étranger qu'en France. Peut-être par jalousie, on n'en parle pas beaucoup en France. Mais la critique...
Pourquoi vous dites ça, par jalousie? Après, vous me répondrez à la question. Est-ce qu'il y a un décalage entre notre façon de voir un film, de critiquer un film, et les autres manières de consommer, de voir un film dans le monde entier?
Ce qui est passionnant, justement, c'est de discuter d'eux, parce que je ne lis pas le portugais, je ne lis pas l'allemand. Je lis surtout l'anglais, un peu l'italien et l'anglais, les critiques anglais et américains. Mais je me suis toujours entretenu dans les festivals ou même par correspondance avec peut-être parce que mes livres ont paru aux États-Unis, ont été traduits, etc. Mais j'ai énormément de plaisir à confronter des opinions avec des critiques étrangers, en particulier dans le sud de l'Europe, qui est très cinéphile. Les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Grecs ont une grande tradition critique et sont assez proches de la critique française.
Qui est très littéraire. Si j'ai bien compris, les anglo-saxons trouvent que nous sommes très littéraires, qu'en France, les critiques sont très littéraires, alors que eux, ils sont plutôt factuels. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette différence, Michel Simon, par exemple?
Peut-être. Il y a des grands critiques américains aussi. Mais ils sont beaucoup moins ouverts au cinéma. Ils sont beaucoup moins informés du cinéma européen, les Américains. C'est même très sélectif. Il n'y a pas beaucoup de films qui sortent. Alors ceux qui voyagent et qui viennent dans les festivals, évidemment, ont une connaissance grâce à Cannes. Mais ils vont pas à Berlin toujours. Ils vont pas à Venise. Mais c'est sûr que le nombre de films étrangers aux États-Unis est très limité par rapport à la production. Par exemple, quelqu'un comme Claude Sautet, qui est un très grand cinéaste français, il a pris extraordinairement de retard. Et autant la Nouvelle Vague a été connue en Amérique très vite, autant des films de Sautet ou de Cavalier ou de gens comme ça n'ont pas eu d'exposition en Amérique. Donc la critique américaine, moi, David Thompson, qui fait un dictionnaire du cinéma très populaire aux États-Unis, il y a des manques terribles, il y a des grands metteurs en scène étranger qui ne figure pas dans son anthologie parce qu'il n'a pas vu les films.
Quel plaisir vous prenez quand vous faites une critique, Michel Simon, ou dans quel contexte vous prenez beaucoup de plaisir? Est-ce que c'est quand vous écrivez que vous avez trouvé une bonne formule? Est-ce que c'est plutôt quand vous êtes à la radio, au Masquer la Plume, ou bien à l'époque où vous étiez sur France Culture et que vous produisiez l'émission Projection Privée? C'est quand vous êtes en public, quand vous animez une rencontre avec un metteur en scène? C'est quoi les moments les plus heureux dans votre pratique de métier de critique et de théoricien du cinéma?
Je ne peux pas comparer des bonheurs qui sont très différents. C'est évidemment que la joute verbale au Masque et la Plume, les répliques, les interruptions, les engueulades, etc., tout en développant des arguments, c'est une chose extrêmement différente que la critique écrite, par exemple. Moi, j'écris relativement vite. C'est-à-dire, je mets beaucoup de temps pour écrire, je réfléchis, j'ai des choses qui viennent à la tête, je prends des notes, et ensuite, quand j'écris, ça se fait en une journée ou deux journées maximum.
Et toujours à la main, si j'ai bien compris.
À la main, effectivement, j'écris à la main. Mais là, ce sont des choses qui se font très vite. La gestation est longue, mais l'exécution est rapide. Alors qu'il y a des gens, c'est le contraire. Ils exécutent très lentement, et la gestation est beaucoup plus longue. Pour ce qui est des entretiens, c'est un plaisir très différent. C'est la rencontre d'un homme, c'est le dialogue, c'est la préparation, on en a parlé longuement. Donc ce sont à chaque fois des expériences extrêmement différentes. Mais je ne peux pas comparer. Le plaisir que j'ai de l'entretien n'est pas comparable au Masque et la Plume et n'est pas comparable à la critique écrite.
Qu'est-ce que vous préférez alors de ces trois exercices différents?
Franchement, les trois. J'écris moins de critiques aujourd'hui que dans ma jeunesse, j'écrivais plus facilement des critiques. Aujourd'hui, je fais plus facilement des comptes rendus de livres, des comptes rendus de DVD, des éditoriaux, des polémiques, etc. Je fais moins de critiques parce que j'ai plaisir à lire les autres. C'est-à-dire, il y a tellement de jeunes qui ont des choses à dire, qui sont dans la jeunesse, dans l'enthousiasme, dans la révélation, etc., que je suis très prêt à déléguer à eux le soin de parler des films.
Mais vous l'êtes toujours, vous aussi, dans cette joie de découvrir des films.
Bien sûr, découvrir, mais plus découvrir à la radio, ou découvrir dans l'éditorial, ou dans la constitution des numéros de Positif.
Merci d'avoir accepté cet entretien, cette série d'Avoir Nu, Michel Simon.
Et merci à vous, Toufik Hakem, de vos questions, même dérangeantes.
C'était Avoir Nu avec Michel Simon, réalisation Jules Lopère, prise de son Yvan Turc, chargé de programme Daphné Abgral, coordination Florian Delorme. Cette série est désormais à réécouter et à podcaster en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.